Festival de musique sacrée de Rocamadour, le magazine, Éric Dupri.
Bonjour et bienvenue à tous à Rocamadour. Le festival aborde les dernières journées de sa 17e édition. Il reste cependant plusieurs beaux concerts d'ici la soirée de clôture le 26 août, à commencer par celui de la mezzo-soprano Anne-Bertin Hugo, accompagnée par le polyinstrumentiste Colin Heller et l'organiste Aimeron Rollin, ce 24 août à 21h en la basilique Saint-Sauveur. Trois musiciens qui forment l'ensemble Oriscus et qui vont donner un programme entièrement dédié à Hildegard von Bingen. Anne-Bertin Hugo est l'invitée de cette émission. Bonjour Anne et merci d'avoir accepté de répondre à mes questions.
Bonjour et merci à vous.
Alors, plusieurs questions, mais un même personnage depuis déjà quelques années, Hildegard von Bingen. Ça, ce n'est pas du tout nouveau. Il y a 3 ou 4 ans maintenant, vous lui consacrez des concerts à Rocamadour. En revanche, cette année, contrairement aux précédentes, vous êtes programmé à la Basilique Saint-Sauveur en soirée. Grand honneur pour vous, j'imagine, mais aussi grande responsabilité, fatalement.
Oui, un grand honneur, une grande joie surtout. C'est un concert qui va clore, je dirais, je ne sais pas si ça va clore, mais en tout cas, ça fait un cycle avec le tout premier concert que j'avais donné au festival en 2017, je crois, et qui était déjà à l'époque dans cette grande basilique. Et il y a eu une grande histoire chaque année où Hildegard est revenue. Elle a visité de nombreuses églises de la région. Et cette année, elle revient dans la basilique Saint-Sauveur avec un programme qui a vraiment mûri tout au long de ces années et qui trouve son aboutissement, je dirais, dans ce fil conducteur qu'on va proposer à ce concert du 24 août.
On regardera le détail de ce programme dans quelques minutes, mais je voudrais qu'on revienne sur la basilique Saint-Sauveur avec sa configuration, son acoustique particulière. Est-ce que c'est un lieu vraiment adapté au chant grégorien du XIIe siècle et donc idéal pour y interpréter la musique d'Hildegard von Bingen?
Oh oui, là je pense qu'on peut dire que c'est un lieu parfaitement adapté. L'acoustique est vraiment très équilibrée entre une résonance qui permet vraiment de déployer toutes les harmoniques et en même temps suffisamment de précision pour pouvoir vraiment comprendre chaque mot du texte et les intentions des chanteurs quand ils interprètent la musique. Donc le chant grégorien lui date plus du 8e, 9e, 10e, 11e, 12e siècle. On arrive à Hildegard comme un fruit de tous ces siècles de chant dans les églises et ça correspond parfaitement aussi pour cette musique de cette période-là.
Alors d'autant plus que la basilique a été construite entre le 11e et le 13e siècle et Hildegard, sa vie couvre grosso modo le 12e siècle.
Voilà, parfaitement. C'est vrai que l'architecture de cette basilique qui a quelques traits communs avec l'architecture romaine, même si effectivement du fait de la topographie quand même très particulière de Rocamadour, on n'a pas les canons de l'architecture romaine, on retrouve quand même certaines choses et notamment cette hauteur et cette densité dans les pierres, dans l'agencement des pierres entre elles.
Alors je sais que nous l'avons déjà présenté lors de nos précédents entretiens ici même, mais pour ceux qui ne la connaîtraient pas ou qui la connaîtraient peu, est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs qui était Hildegard von Bingen et plus encore les raisons pour lesquelles vous vous passionnez pour ce personnage et sa musique ?
Alors, au risque de me répéter effectivement cette année, mais en tout cas, Hildegard est une abbesse bénédictine du XIIe siècle, éminemment connue à l'heure actuelle pour toute la tradition qu'elle nous a transmise, à la fois théologique, à la fois médicale, de sagesse humaine, je dirais, et puis musicale, qu'elle nous a transmise jusqu'à aujourd'hui, qu'on redécouvre aujourd'hui parce qu'il y a vraiment des liens avec notre époque qui se questionnent beaucoup, notamment sur la place de la nature, sur qui est l'homme. Et elle apporte beaucoup de réponses aux questions qu'on se pose aujourd'hui. Et sa musique, elle aussi, est un petit peu une réponse, de même d'ailleurs que toute la musique grégorienne, je le crois, parce que c'est une musique qui nous transporte dans un autre temps. C'est une dimension du temps qu'on a du mal à appréhender aujourd'hui, où on est minuté, où chaque seconde peut compter, chaque seconde vaut peut-être des millions. Bon, alors elle n'est pas du tout dans cet espace-temps-là, et elle nous transporte dans un espace-temps qui est complètement différent et qui nous permet de respirer, de comprendre que l'éternité peut-être existe aussi et que nos vies ne valent peut-être pas forcément le prix d'une minute.
Alors j'allais le dire, est-ce que sa musique n'est pas une espèce de fenêtre ouverte sur l'éternité, en tout cas une porte qui ouvre sur l'éternité ?
Bon, elle, en tout cas, elle le reçoit comme cela. Elle dit qu'elle le reçoit dans ses visions et qu'elle ne fait que transcrire ce qu'elle entend. Donc, contrairement, je dirais, aux mélodies grégoriennes où la plupart sont issues de textes sacrés, elle compose ses textes et ensuite elle compose la musique à partir de ses textes. Mais ses textes, elle dit les recevoir dans ses visions et cette musique aussi. Elle parle des neuf chœurs des anges, qui est une tradition très connue dans l'Église primitive. Ces neuf chœurs des anges, c'est une tradition qui vient de nos frères juifs. Et donc ces chants seraient chantés par ces anges, ces neuf chœurs des anges. Et c'est ainsi qu'on perçoit un petit peu ce qu'elle entend dans ses visions.
Sa musique, la musique d'Hildegarde, comment vous la définiriez ? Est-ce qu'elle s'inscrit pleinement dans celle de son époque ou est-ce qu'elle présente tout de même quelques particularités ?
C'est vraiment l'évolution du chant grégorien qui mène à la musique d'Hildegarde. Elle n'est pas seule à écrire ce genre de mélodie dans la région du Rhin de cette époque-là. Il y a d'autres musiciens qui écrivent des mélodies comme ça très ornementées. Mais moi, je fais souvent le parallèle entre le chant grégorien et la musique d'Hildegarde. Je fais souvent le parallèle avec l'art baroque et l'art rococo. C'est-à-dire, le rococo n'aurait jamais pu naître s'il n'y avait pas eu l'art baroque avant. Et c'est vrai que l'art d'Hildegarde, c'est comme une espèce d'aboutissement des mélodies grégoriennes, de recherche créative à partir des modes grégoriens. On voit bien l'évolution déjà dans la musique grégorienne où on part de tétracordes, de quelques, même d'une seule corde à partir d'une corde, hein, c'est une note répétée. Et à partir de cette corde, la mélodie va évoluer autour d'une corde, puis de deux cordes au fur et à mesure des siècles, puis de trois cordes, etc. Et donc avec Hildegarde, on a deux ou trois cordes autour desquelles on gravite et autour desquelles elle va énormément enrichir et ornementer ses mélodies. Et c'est la raison souvent pour laquelle on me dit à la sortie des concerts, mais on dirait de la musique orientale. Alors, c'est pas de la musique orientale, mais effectivement, c'est une musique extrêmement ornementée.
Nous allons parler dans quelques instants de votre concert et du programme que vous avez conçu, de l'ensemble Oriscus. Mais avant cela, je propose qu'on vous écoute une première fois dans cette émission, accompagné par Colin Heller. Vous chantez Ubi Caritas, un chant grégorien. Ubi Caritas, chant grégorien interprété par Anne Bertin-Hugo, accompagné par Colin Heller. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre exactement là, Anne Bertin-Hugo ?
C'est un chant grégorien, donc à l'origine plutôt chanté a cappella, sans accompagnement. Et un chant qui se chante lors de la procession du Jeudi Saint, lorsque dans le Jeudi Saint, on commémore le moment où Jésus vient laver les pieds de ses disciples avant d'être mené à sa passion, et donc juste à la veille de sa mort. Et il lave les pieds de ses disciples, et ce chant dit « Où sont amour et charité, Dieu est présent ». Et donc la veille du Vendredi Saint, le Jeudi Saint, on commémore ce geste, donc dans les célébrations, les croyants se lavent les pieds entre eux et on chante pendant la procession ce chant-là. Voilà, nous on a choisi un petit peu d'agrémenter d'instruments, alors déjà parce qu'on sait que c'est des chants qui pouvaient être accompagnés parfois, on ne sait pas exactement comment, mais il y a aussi qu'on souhaite vraiment proposer un chemin moins liturgique qu'esthétique. Voilà, ce qui n'empêche pas du tout les personnes de faire aussi un chemin liturgique si elles le souhaitent, plutôt en allant écouter par exemple ces chants-là dans des monastères, etc. Nous, pour l'instant, on a plutôt choisi cette démarche plus esthétique aussi, mais qui peut se rejoindre d'une manière ou d'une autre et vraiment de proposer aux gens une version un petit peu recréée de ces chants, qui, je dirais, qui prennent toutes leurs fonctions vraiment en plénitude lorsqu'ils sont chantés là où ils étaient prévus d'être chantés. Et c'est pas forcément le cas lorsqu'on fait un concert. On a choisi un autre angle.
Vous évoquiez tout à l'heure la musique orientale, en tout cas le fait que des gens qui écoutent vos concerts vous disent après, mais on dirait de la musique orientale. Et il est vrai qu'au début, les premières mesures jouées par Colin Heller, ils font beaucoup penser. De quel instrument joue-t-il là ?
Alors, il joue ici de la guitare. C'est un instrument médiéval. Voilà, tous les instruments qu'il joue sont des instruments médiévaux, parfois des copies qui ont été faites à partir de tableaux. Colin est un instrumentiste passionné par les instruments, la facture instrumentale. Donc parfois, c'est assez courant qu'il puisse arriver avec un tableau chez un luthier en disant « Est-ce que tu pourrais me faire une copie de cet instrument, par exemple ?» et essayer de le faire sonner par la suite. Bon, la guitare est déjà un instrument un petit peu connu, mais Colin est aussi un musicien particulièrement intéressant parce qu'il vient à la fois des musiques traditionnelles et à la fois de la musique savante. Et donc, il sait vraiment improviser beaucoup de styles et surtout faire un mélange qui respecte parfaitement le style de chaque musique. Il ornemente peut-être un petit peu à la manière d'un musicien traditionnel, mais en même temps, on reste complètement dans le style médiéval. Et moi, ça m'inspire aussi, hein. On l'entendra. Parfois, on choisit de partir d'une mélodie assez connue comme celle-ci, et puis petit à petit, d'improviser à partir de ce matériau musical.
Voilà. Oui, je crois que le terme de polyinstrumentiste lui va parfaitement. Il joue de combien d'instruments en tout ? Enfin, 5 ou 6, c'est...
Je pense beaucoup plus.
Oui, même plus encore.
je crois même chez lui qu'il a une trentaine d'instruments. Alors, il est formé spécialement au violon baroque, donc c'est un excellent violoniste déjà, parce qu'il est diplômé du CNSM de Lyon. Et puis, à côté de ça, comme c'est un esprit très curieux qui joue beaucoup de musique traditionnelle, eh bien, dès qu'il voit un instrument à cordes, ou même parfois à clavier, eh ben, il essaye de trouver la façon de le faire sonner et puis de l'utiliser dans les contextes où il pense que c'est le...
Ouais, c'est un musicien né, je crois, vraiment un musicien
né.
Absolument. Alors, l'ensemble Oriscus, c'est lui, c'est vous et qui d'autre ?
L'ensemble Oriscus, alors c'est lui, effectivement, c'est moi. C'est aussi Aimerand Rollin qui m'a accompagnée au tout début, donc en 2017, quand j'ai fait le premier concert dans la basilique. Aimerand était déjà là à l'orgue sur un petit organetto. Cette fois-ci, pour ce concert, il jouera le grand orgue, mais vraiment adapté à cette musique. Donc le grand orgue, il y a eu un ajout de jeux qui vont être parfaitement adaptés pour accompagner la musique grégorienne et le Hildegard de Bingen. Et donc Aimerand en fait partie, je dirais, depuis le début d'une manière un petit peu, voilà, quand l'ensemble n'était pas encore né, donc il avait toute sa place là. Et puis d'autres musiciens vont nous rejoindre. Alors ils sont un petit peu pour l'instant au point de départ avec nous, mais le projet est de rajouter notamment un instrumentiste qui joue des instruments à vent, des cornemuses médiévales et pas mal d'autres pipeaux. Et puis d'autres chanteurs aussi, parce qu'on a besoin d'être plusieurs pour faire du contrepoint, notamment dans le disque que j'ai enregistré récemment. Il y a Cédric Bayergeot qui a participé, mais il y a d'autres chanteurs et chanteuses qui sont prévenus qu'ils vont pouvoir rejoindre bientôt l'ensemble qui est naissant et qui va donc se développer à partir de ce répertoire.
Alors on en vient au programme de ce concert et la façon dont vous l'avez conçu. Comment avez-vous choisi les pièces qu'il compose ? À quelle logique obéit-il, s'il y en a une d'ailleurs ?
Alors, je cherchais quelque chose, un lien entre Hildegard de Bingen et Rocamadour, parce que c'est vraiment là que j'ai développé tous ces concerts et ces projets. Et puis, il se trouve qu'il y a un chant que je trouve particulièrement adapté à notre époque, parce qu'il parle de la Vierge en disant « Mère de la Sainte Médecine ». Alors, sachant qu'on vit des périodes où la médecine semble être vraiment clé pour notre société, j'ai un petit peu fouillé ce chant qui est extrêmement lumineux dans un mode majeur de grégorien et qui virevolte, qui a vraiment énormément d'ornementation. C'est plus ou moins chez Hildegard, il y a des chants très ornementés, il y a des chants moins ornementés. Celui-là fait vraiment partie des chants très ornementés et très clairs, très cristallins. Et il se trouve qu'au milieu de ce chant, mais vraiment au milieu, il y a deux mots, Stella Maris. et elle, vraiment, elle enrobe ces deux mots dans le grave, dans l'aigu. C'est la Marie, ça veut dire étoile de la mer, et c'est aussi un vocable, un titre qu'on donne à la Vierge. Alors là, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, parce que c'est aussi le vocable de Notre-Dame de Rocamadour, qui est patronne des marins. Et je me suis dit, là, il y a vraiment un lien. Et donc, j'ai trouvé aussi plusieurs chants grégoriens qui sont sur ce thème de Stella Maris. Et donc, entre Hildegarde et ces chants grégoriens, et cette figure de l'étoile de la mer, bah, j'ai créé un programme entre grégorien et Hildegarde de Bingen, un petit peu en hommage à Rocamadour et à la Vierge de Rocamadour.
Est-ce qu'on n'y trouve que des pièces composées par Hildegard von Bingen ou est-ce qu'il y a d'autres compositeurs qui ont été intégrés ?
Alors, les trois Ave Maris Stella, donc qui sont vraiment en lien avec ce Stella Maris qui est central dans le programme, sont des hymnes grégoriennes qu'on chante dans les vêpres à la Vierge ou les vêpres du samedi soir encore de nos jours dans les monastères. Donc ceux-là, ce sont des mélodies qui sont anonymes et tout le reste, ce seront des mélodies d'Hildegard de Bingen.
Voilà donc un programme essentiellement tout de même constitué de pièces composées par Hildegard von Bingen. Est-ce que entre chaque morceau, vous délivrez quelques anecdotes ou des indications sur le personnage, son œuvre ou sur l'œuvre que vous venez ou que vous allez interpréter ?
Alors cette fois-ci, ce ne sera pas le cas. C'est vrai que les autres années, j'ai vraiment proposé des concerts un petit peu pédagogiques aussi, où on a beaucoup parlé de la figure d'Hildegard, de sa vie, de sa personnalité, de sa pensée. Et puis, on a aussi beaucoup parlé des modes grégoriens. Donc je crois qu'il y a un public assez fidèle finalement autour de ces concerts, ce qui me réjouit énormément chaque année de voir des visages connus et puis d'autres moins connus qui découvrent. Mais cette année, on a plutôt voulu privilégier vraiment la musique et donc il n'y aura pas d'explication. Je pense que le programme sur suffisamment riche pour permettre aux personnes de comprendre qui est cette personne et voilà. Puis plus toute l'histoire des concerts à Rocamadour, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui maintenant savent, donc au risque, je ne voudrais pas me répéter chaque année, cette année c'est un petit peu différent. Et puis aussi, ça permettrait de vraiment prendre le temps de goûter à l'acoustique et à l'architecture de cette magnifique basilique, donc qui a un côté très sombre, hein, parce que la pierre est vraiment très très présente, mais il y a quand même quelques ouvertures lumineuses. Alors c'est vrai qu'on sera le soir, on les verra pas, mais on va vraiment créer un jeu de lumière pour permettre vraiment aux personnes de profiter de vraiment l'expression du titre de ce concert qui est Stella Maris, c'est donc de l'étoile de la mer, de vraiment permettre aux personnes d'être vraiment projetées dans cet imaginaire qui convient très très bien à tout le programme, je crois. Nuit étoilée.
Alors, comme vous le disiez, vos programmes ont beaucoup évolué hein, depuis les premières années, il y a 4 ou 5 ans. Est-ce que vous continuez de découvrir des choses sur elle, sur sa pensée, sur sa musique ? Vous étudiez des biographies, des livres qui lui sont consacrés et vous trouvez de nouvelles choses à chaque fois et qui viennent enrichir vos programmes ?
Oui, bah, il y a toujours effectivement des nouvelles choses. Cette année aussi, j'ai fait une très belle rencontre de la chanteuse Catherine Schroeder, qui est particulièrement spécialiste hein, de Hildegard, de sa pensée, de sa musique. Donc, on a pu encore affiner certaines interprétations, vraiment essayer de comprendre comment fonctionnent les ornementations, comment fonctionnent tous les mouvements mélodiques, parce que, comme dans les mélodies grégoriennes, hein, il y a des structures mélodiques qui reviennent, donc vraiment d'essayer de comprendre de l'intérieur. Après, c'est aussi en regardant tout ce qu'il y a autour d'Hildegard et finalement, par exemple, tout le fonctionnement du chant grégorien, l'histoire du chant grégorien, ça permet vraiment de mieux comprendre la pensée d'Hildegard, comprendre la philosophie médiévale aussi, Saint Thomas d'Aquin, toute la pensée dans laquelle elle était plongée. Saint Thomas, c'est un petit peu plus tardif, mais elle était quand même vraiment dans cette pensée, même d'Aristote, d'essayer de comprendre comment, pour elle, l'univers fait qu'un, en fait, avec tout ensemble, que cosmos, l'être humain, l'âme, l'esprit, le corps, tout ça. Et puis, j'ai aussi pu vraiment me pencher beaucoup plus sur la traduction des textes, donc vraiment d'étudier beaucoup plus sa poésie. Voilà, tout ça, c'est très nourrissant pour approfondir les interprétations.
Son œuvre musicale, est-ce qu'elle a été totalement explorée ou est-ce qu'on trouve encore des partitions, je ne sais pas, dans des vieux monastères ou dans des bibliothèques très anciennes ?
Alors non, vraiment, normalement, elle avait vraiment à cœur de rassembler tout dans un seul recueil. De même que toutes ses visions, en fait, elle les a rassemblées dans des livres. Donc elle avait vraiment pensé du début à la fin. Et là, c'est la même chose. On a vraiment les 77 chants plus le théâtre musical. j'appelle ça du théâtre musical, hein, parce que c'est vraiment, il me semble, le cas, cette Ordo Virtutum, qui est donc l'histoire de l'âme, qui cherche sa voie de bonheur au milieu des vertus et du démon qui la titille. Donc, a priori, il n'y a aucune raison de trouver des nouvelles partitions d'Hildegard de Bingen. Et il y a bien 77 chants, plus l'Ordo Virtutum, qui constitue cette œuvre.
Nous allons vous écouter une seconde fois, Anne-Bertin Hugo, toujours accompagné par Colin Heller. Vous chantez ici un autre chant grégorien, Ave Maris Stella. Ave Maris Stella, chantée par Anne-Bertin Hugo, accompagnée par Colin Heller. Alors, je crois que c'est une des pièces que nous allons entendre lors de votre concert à la Basilique Saint-Sauveur, mais celle-ci n'a pas été composée par Hildegard, justement.
Voilà, c'est un chant grégorien, a priori anonyme, donc on sait quand même que le texte est commun à beaucoup, beaucoup de mélodies différentes, et c'est un texte assez ancien. Là, c'est vrai que ce sont des mélodies beaucoup plus simples à la base que celles d'Hildegard. Mais avec Colin, on a un petit peu choisi d'exploiter leur potentiel d'improvisation, c'est-à-dire qu'ils contiennent vraiment en eux-mêmes d'autres mélodies, on entend d'autres choses derrière, on a envie de s'exprimer un peu différemment. Et c'est un petit peu ce qu'on a voulu faire en essayant de montrer aussi qu'Hildegard, ça vient de là. Et finalement, à partir de ces chants-là, on pourrait, si on rentrait petit à petit dans le style d'Hildegard, trouver des mélodies assez proches de celles d'Hildegard sur ces mêmes textes-là.
Pour terminer, une chose que nous n'avons pas précisée, même si vous y avez fait allusion à un moment donné dans la conversation, c'est que ce concert, c'est un concert de sortie de CD. Le CD Hildegard sort enfin.
Voilà. oui, c'est un bel aboutissement et c'est vrai que je remercie beaucoup le label Rocamadour Musique Sacrée de nous avoir proposé d'enregistrer ce disque parce que c'est vraiment le fruit de toutes ces années de travail ensemble dans cette région. Et donc évidemment, comme il fallait un petit peu faire le lien avec Rocamadour, ça paraît tout à fait évident quand on suit l'histoire de ce disque. Et on a spontanément appelé le disque Stella Maris, Étoile de la Mer et Hildegard von Bingen avec ce chant où elle met en valeur aussi cette figure de l'Étoile de la Mer qui est la Vierge Marie, en tout cas un des titres dont elle use pour appeler la Vierge Marie.
Et le programme du CD, le programme du concert, ce sont exactement les mêmes.
Hein. Voilà, quasiment, à deux, trois choses près, parce qu'il nous manque un instrumentiste, malheureusement. Mais sinon, on a tout arrangé pour que, en tout cas, le fil conducteur soit le même et que les personnes puissent, à la sortie du concert, prendre le disque et puis se remémorer, je l'espère, une soirée dont ils profiteront et qui leur fera du bien, je le souhaite.
Un CD donc à se procurer sur le site du Festival de Rocamadour, sous le label donc Rocamadour Musique Sacrée. Merci beaucoup Anne-Bertin Hugo. Je rappelle que vous formez l'ensemble Horiscus avec Colin Heller et l'organiste Emran Rollin, et qu'Horiscus donne un concert dédié à Hildegard von Bingen ce mercredi 24 août à 21h en la basilique Saint-Sauveur. Les réservations et l'achat des places sont à faire en ligne sur le site du festival www.rocamadourfestival.com. Je précise aussi pour les intéressés que l'on peut suivre l'actualité et les activités d'Anne-Bertin Hugo sur son site personnel www.annebertinhugo.com. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous quotidien sur Radio Présence. Je vous souhaite à tous une excellente après-midi à l'écoute de nos programmes.
Festival de musique sacrée de Rocamadour, le magazine Éric Dupris.